Atlantique, 95.7, Saguenay. Le show du matin. Le show du matin.
Bon, le zoo de Falardeau, je pense que dans les faits, là, tout a été dit. Hier, on a fait le tour de plusieurs ex-employés. On a eu le reportage dans le quotidien. Le dossier est quand même très étoffé. Il y a eu des réactions partout. Le zoo s'est défendu. Mais ce qu'on n'a pas entendu, c'est l'autre côté de la médaille. Et sincèrement, j'ai été surpris par un texte qui a été repartagé sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises. Un texte qui a été écrit par Marie-Ève Dallaire-Lamontagne, qui est étudiante en agronomie et auxiliaire d'enseignement pour le cours de comportement et bien-être animal à l'Université de Laval. Et elle semblait faire plusieurs distinctions entre les faits reprochés et peut-être une certaine réalité que l'humain normal, pas formé, pas avisé, peut peut-être difficilement comprendre.
Ben, hier, je te demandais de faire un parallèle puis de trouver un point commun aux témoignages qu'on a reçus. Ce sont tous de jeunes filles entre 18, 20, 25,
oui.
Qui aiment les animaux, puis qui ont peut-être pas une bonne conception. Tu sais, moi, quand je visite des fermes laitières, que je visite des élevages, que je visite, puis qu'on me raconte comment on fonctionne avec les animaux, puis il faut se différencier de...
Ben, c'est pas des êtres humains.
Ce sont des
animaux qui réagissent pas comme des êtres humains.
Alors, ma question, quand j'ai lu les témoignages hier, c'est... Puis, tu sais, notre invité n'est pas là pour dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Là. Elle est là pour nous expliquer que... Est-ce que ce que j'ai lu hier est une exagération vue par des gens qui ont vraiment... Ouais. T'sais, qui ont confondu humains et animaux.
Elle est en ligne, Marie-Ève Dallaire-Lamontagne. Bon matin.
Bon matin, je suis contente d'être avec vous.
Ben, pareillement, parce que j'ai adoré ton texte personnellement hier et je me posais la question, est-ce qu'il se pourrait qu'on ait affaire un peu, moi j'appelle ça le syndrome de Walt Disney, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir les animaux comme des humains et à vouloir les traiter comme des humains?
Ben, c'est une théorie intéressante. C'est vrai qu'on est... du moins la génération des 20 ans, on a écouté beaucoup de films Disney plus jeunes. Ça aurait pu avoir un impact sur la façon dont on interprète les comportements des animaux. C'est vrai qu'on a tendance à poser nos propres sentiments à ceux des animaux. On le fait beaucoup avec nos chiens, nos chats. On va dire « Ah, il y a de la peine, il est jaloux, il aime telle ou telle affaire » ou on va interpréter des signaux pas nécessairement de la bonne façon. Donc, si on appelle ça de l'anthropomorphisme, on peut faire avec les animaux du zoo ou avec des animaux sauvages aussi. Mais il faut dire que ça requiert certaines connaissances de base en comportement pour être capable de bien interpréter ces comportements-là. Je peux prendre l'exemple du sourire chez le singe. Un singe qui sourit, c'est pas nécessairement une expression de joie comme chez l'humain, mais c'est plutôt une expression de peur ou d'agressivité, là, on pourrait dire.
Okay.
OK, donc quand je visite un zoo ou encore ici, il y avait une exposition d'animaux exotiques et le commentaire qui revenait souvent de la part des gens, c'est « Oh mon Dieu, les animaux ont l'air tristes. »
Oui, c'est ça. On l'air triste, on suit aux expressions faciales souvent ou des choses comme ça, mais c'est pas nécessairement un bon indice pour déterminer si l'animal est bien ou pas. Le bien-être animal, on pourrait, si on peut le résumer, là, ça serait un état de santé mentale et physique pour l'animal qui est adéquat, puis une possibilité pour lui de pouvoir exprimer ses comportements naturels ou ses comportements pour lesquels il est fortement motivé. Mais pour savoir si son bien-être est adéquat, ça demande de comprendre un peu quel comportement l'animal aime exprimer, dans quelles conditions de vie, dans quel environnement il est bien adapté. Et ça,
ben,
c'est pas les mêmes critères que pour les humains.
Bon, hier, tu as vu assurément l'article du journal Le Quotidien qui a été repris par Le Soleil, qui a été repartagé à de nombreuses reprises. Quand tu lis ça, tu constates les faits. Qu'est-ce qui te vient en tête comme étant quelqu'un qui a une formation dans le comportement animal?
Ben, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça quand même préoccupant. Si qu'est-ce qui a été écrit est vrai, c'est quand même des graves accusations de négligence animale, là, qu'on parle de laisser des animaux mourir dans le froid ou des mauvais soins qui auraient été appliqués. Par contre, moi, je prends toujours du recul par rapport à ça, parce que ça reste des observations, ça reste des interprétations. Ça prendrait vraiment une évaluation par des professionnels. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre les résultats de l'enquête et de voir qu'est-ce qui va en ressortir. Je suis convaincue que les jeunes filles qui ont fait la plainte et qui ont partagé qu'est-ce qu'ils ont vu, étaient bien intentionnés, voulaient le bien-être des animaux. Mais j'ai vraiment été surprise par la réaction du public qui s'est emporté, qui a partagé, qui a, qui a vraiment été tout de suite dans l'agressivité, dans l'accusation, qui a sauté aux conclusions. Ça m'a quand même troublée. C'est pour ça que j'ai écrit l'article aussi pour nuancer, parce que faut dire que pour plusieurs points, la réalité pourrait être moins pire que qu'est-ce que il a été décrit dans cet article-là.
Ben, prenons un exemple. Ce qui soulevait souvent les passions dans la région quand on parlait du zoo de Falardeau, c'était le contact avec les bébés animaux. La fameuse pouponnière. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Ils vivent du stress ou ils n'en vivent pas? Est-ce qu'ils peuvent mourir d'avoir été en contact avec des humains à un si bas âge?
Ben, c'est ça. Ben, ça, c'est un point qui est controversé, c'est vrai. Je pense que tout est dans la façon dont le contact est fait. C'est sûr que pour des jeunes animaux qui vont passer le reste de leur vie dans un zoo, ben c'est une bonne chose que de s'habituer au contact avec les humains, donc de s'acclimater. Quand ils vont être plus grands, ils vont voir beaucoup de visiteurs pendant le zoo. Et s'ils sont déjà habitués avec le contact aux humains, ils vont vivre moins de stress, ils vont être plus heureux dans leur environnement. C'est sûr que aussi c'est l'approche des gens. Le fait d'avoir une surveillance des employés, c'est une bonne chose. Je pense que ça avait pour but aussi d'éviter qu'il y ait des gestes brusques. Qu'est-ce qui va générer le stress chez les animaux? Ça serait l'incapacité à pouvoir prédire les mouvements ou les gestes que vont poser les visiteurs et la nouveauté des visiteurs. Donc, j'imagine que les premières fois qu'ils ont été flattés ou qu'ils ont eu des contacts avec les humains, ça peut être stressant. Mais rapidement, les jeunes animaux s'habituent quand ils intègrent les séances de jeu et de contact avec les humains à leur routine. C'est l'importance d'avoir des gestes doux. Ça peut même générer des émotions positives chez l'animal. Aussi, ce qui est important, c'est que l'animal garde un certain contrôle. S'il a besoin de repos, s'il a besoin de se retirer, il faut qu'il y ait la possibilité de le faire. Il faut qu'il y ait la possibilité d'aller se cacher s'il est amené. Donc, je pense que aussi les employés étaient avertis là-dessus d'être alertes aux signaux des jeunes animaux de fatigue ou d'évitement ou de je veux plus me faire toucher pour les mettre à l'écart. Si tous ces critères-là sont respectés, le contact n'est pas nécessairement négatif et le stress ne va être vraiment diminué.
Ouais.
Ouais, ça ressemble à...
Ben, si on parlait des bébés de tigres, entre autres, qu'on faisait flatter, puis que là, bon, ben, c'est des animaux sauvages, donc l'impression de l'humain, c'est pas très bon. Sachant que le chat domestique partage 96% du bagage génétique du tigre, c'est du tant pire qu'un chat.
C'est pas la même chose. Là. Faut pas vraiment se fier au bagage génétique. Là. Je veux dire, l'humain partage une grosse partie de son bagage génétique avec le riz. Là. Fait que, faut pas trop se fier là-dessus. Mais c'est vrai qu'ils ont des instincts ou des comportements similaires. Mais je pense que dans un contexte de zoo, les jeunes tigres ne retourneront jamais dans la nature. Oui, ils gardent ils ont un instinct qui est conservé, là, mais leur réalité est différente. Ils vont être en contact avec des humains. C'est une bonne chose pour eux d'en voir dans leur jeune âge pour se désensibiliser. Et oui, ça peut ressembler à un chat un peu dans sa capacité d'adaptation et de contact avec les humains. Là. Ils peuvent prendre plaisir à se faire flatter si c'est fait dans le respect, si c'est pas des gestes brusques.
L'autre chose qu'on a entendu beaucoup hier, c'est que ça n'a pas de bon sens des animaux sauvages dans une température comme celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à moins 40, par exemple, comme aujourd'hui, une girafe, des alpagas, est-ce que ça peut mourir gelé? Est-ce que ces animaux-là sont capables de s'adapter quand même au climat du Québec?
C'est sûr que ça dépend des espèces. Que dans l'article du quotidien, il relatait le cas d'un cacatoès, un perroquet. On s'entend qu'un animal comme celui-là ne pourrait pas survivre dans des températures froides. Donc, ça m'avait quand même surpris, là, cet événement-là. Mais pour la plupart des grands mammifères, on prend l'exemple des chameaux ou même des lions, c'est des animaux qui ne seront pas nécessairement dans le froid, dans leur environnement sauvage, mais ils ont la capacité de s'adapter. Là. Ils ont du poil, ils ont du gras, ils ont passé tout l'automne dehors, fait que graduellement, ils ont fait les réserves qu'ils avaient besoin pour être confortables dans le froid. C'est sûr qu'il y a des limites, là, moins 40, c'est vrai que ça doit être frisquet, mais pour autant que les animaux aient accès à des abris ou à des coupe-vents pour s'ajuster et être toujours confortables dans leur environnement, la plupart des animaux qui sont à l'extérieur ou au zoo doivent sûrement être très bien adaptés.
Fait qu'en gros, attendons les conclusions de l'enquête et soyons peut-être un peu moins émotifs face à ce genre d'article-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Marie-Ève.
Merci.
Bonne journée, Marie-Ève Dallaire-Lamontagne, qui donc est étudiante en agronomie et auxiliaire d'enseignement pour le cours de comportement et bien-être animal à l'Université Laval. Je trouve ça intéressant parce que effectivement le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Disney, tu vois des animaux, tu as tendance à leur associer des sentiments, des émotions, alors que dans la réalité, peut-être totalement, mais totalement dans l'erreur.
On est